Soir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les nouvelles du site web de Radio Okapi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 6h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Comme je le disais tout à l'heure, en République démocratique du Congo, de nombreux ménages à faibles revenus ne sont pas protégés contre les risques de la vie, tels que les accidents, maladies, décès, perte de récolte, de bétail, etc. Et en cas de maladie, par exemple, ces ménages dépensent leurs maigres revenus, et certains vont même jusqu'à s'endetter, et cela les plonge de plus en plus dans la pauvreté. La micro-assurance est la réponse appropriée à ces genres de situations, d'après les experts. Alors, que faut-il faire pour que de nombreux ménages en République démocratique du Congo accèdent à la micro-assurance? Jean-Claude Tétikin, directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo, est notre invité. Avec lui, nous allons parler de ces sujets. La première question, qu'est-ce qu'on entend par micro-assurance, Jean-Claude Tétikin?
Alors, écoutez, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Micro, comme vous l'entendez, ça veut dire petit. Diminutif, un peu comme quand on a parlé il y a quelques temps de la microfinance. En fait, c'est de la finance pour le petit, et donc la microassurance, c'est toutes les mesures qu'on peut prendre pour assurer les personnes à faible revenu. Voilà, de manière simple, comment on peut définir la microassurance.
D'accord. Et on a dit tout à l'heure que ces personnes font face souvent à des risques liés à la vie et n'arrivent pas à s'en sortir. Pouvez-vous nous dire pourquoi?
Alors, parlons d'abord de manière générale. La vie, je dis, vous savez, est un risque. C'est-à-dire que chaque jour, nous faisons face à de nombreux risques. Il y a des risques qui dépassent normalement l'individu comme étant personne. Vous savez, quand il y a des catastrophes, quand il y a des familles dans un pays, la population ne peut rien faire. Quand la population,
les inondations, par exemple,
on ne peut rien faire. Mm-hmm. Vous savez, et ces genres de risques, normalement, vous le savez, ils sont déjà d'une certaine manière dans les politiques publiques. Aujourd'hui, la sécurité sociale est une forme de protection des risques, parce qu'on s'est dit, voilà, pendant que vous êtes encore actif et que vous cotisez voilà, à la caisse sociale, le jour où vous devenez incapable, invalide, voilà, l'État. C'est-à-dire qu'il y a déjà ces formes d'assurance qui existaient déjà, mais vous avez des assurances qui sont dues à l'individu elle-même, lui-même par exemple. Voilà, vous tombez malade, vous l'avez dit, vous perdez un bien et vous faites face. C'est énorme.
On est arrivé à une maladie inconnue qui attaque le cheptel.
Alors imaginez, vous vous réveillez un matin, les médecins font le diagnostic et vous dit cancer. Et vous allez à l'hôpital, on vous dit l'opération c'est 200 000. Vous savez, il y a des opérations des 200 000, 300 000, 400 000. Mais évidemment, même moi qui vous parle, je ne peux pas faire face à une dépense aussi colossale. Maintenant, on a imaginé effectivement comment pouvoir distribuer les risques parmi plusieurs individus. C'est-à-dire, on s'est dit, écoutez, cotisez, n'est-ce pas, pendant que vous êtes encore en forme, pendant que ces risques n'est pas encore tout à fait palpable.
C'est ce que fait l'Institut National de Sécurité Sociale.
Voilà. Vous n'allez pas dire, mais écoutez, je suis en bonne santé, écoutez, ma récolte n'épatit pas, vous savez, je ne suis pas au chômage, pourquoi je dois? Non, mais le jour ça viendra, on est sûr que vous allez avoir énormément de difficultés pour pouvoir le faire. Et donc, l'homme a imaginé un mécanisme. D'ailleurs, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'assurance, c'est pas quelque chose de genre. Même dans les pratiques informelles, vous trouvez toujours des formes d'assurance. Aujourd'hui, quand les mamans, même vous, au travail, partout, les gens se mettent à côté, ils créent une petite caisse. Et chaque fois qu'il y a un deuil parmi un collègue, on tire dans cette caisse. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que le jour où c'est une personne entre nous, dans notre petite communauté, a un problème, nous pouvons puiser dans cette caisse et pouvoir. C'est un effort collectif qui, d'une manière, récompense ceux qui connaissent les risques. Bon, mais enfin, il peut arriver que vous cotisez et qu'au final, vous n'avez pas eu ces risques. Mais cela ne veut pas dire que vous avez perdu de l'argent. Mais parce que vous ne savez pas. un jour ça pourrait arriver. Mmh. Et donc, l'assurance c'est quand même quelque chose de très important de manière générale. Et nous en parlons, je vais quand même préciser pourquoi le FPM a lancé ces thèmes, c'est pour anticiper. Vous savez, notre rôle étant que fonds, nous essayons de pouvoir sensibiliser les institutions de microfinance, même financières, même les individus comme vous, à des pratiques, n'est-ce pas, qui peuvent les aider à pouvoir améliorer leur quotidien. Et donc, comme la loi de l'assurance, n'est-ce pas, est passée déjà en revue au niveau du Sénat et du Parlement, aujourd'hui, le projet de loi se trouve sur la table du président de la République, on s'est dit qu'il était important de pouvoir réfléchir. Les gens se positionnent déjà. Or, nous, on ne s'occupe pas de grands, on s'occupe
des petits.
Et donc, on a lancé une réflexion sur la microassurance pour dire, voilà, quelles sont les opportunités qu'on peut saisir. Donc, l'assurance est très importante, c'est-à-dire toute politique de développement dans un pays, n'est-ce pas, doit absolument intégrer la microassurance, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça peut représenter en termes de récompense.
Mais on parle de l'assurance, la microassurance pour les familles et les ménages à faible revenu. Déjà, ils n'ont pas assez de moyens, ils n'ont pas assez de revenus. Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour cotiser?
Écoutez, c'est la même question qui a toujours été posée. Aujourd'hui, lorsqu'on a commencé à discuter de la microfinance à l'époque, tout le monde se disait, mais écoutez, le pauvre est tellement pauvre pour épargner, les pauvres, où est-ce qu'il peut trouver de l'argent pour pouvoir emprunter dans une banque? Non, il est clair qu'aujourd'hui, si toi et moi, et nous travaillons, peut-être nous avons des revenus au-dessus de 2000, 3000, 4000, je ne sais pas, et que nous pouvons faire face à des sinistres en cotisant 100 dollars, oui, on a imaginé des modes d'assurance, n'est-ce pas, des micros, où quelqu'un peut cotiser 10 dollars, 1 dollar même. Vous voyez, vous savez ce que ça signifie. Vous cotisez 1 dollar par mois. Le jour où vous avez un sinistre qui va vous coûter 500 dollars, vous savez ce que ça représente pour quelqu'un qui gagne 20 dollars le mois ou 30 dollars, le fait qu'il fasse face à une dépense de 500 dollars. C'est 10 fois, 20 fois plus que son revenu mensuel. C'est presque le revenu d'une année qu'il doit faire face. Et donc, si on lui donne... L'assurance lui donne 500 dollars au titre de remboursement du paiement du sinistre, c'est énorme. Et donc, on a imaginé des formes qui s'adaptent, n'est-ce pas, à la capacité et au niveau de revenus même de la population. Et donc, c'est très très important parce que, vous savez, pourquoi c'est très important? Vous avez été au séminaire, dans notre forum, vous avez entendu des chiffres qui sont assez hallucinants. On vous dit que le pauvre, dans sa condition de pauvreté, dépense entre 30%, presque à 100% de son revenu pour faire face au sinistre.
C'est-à-dire, pour les soins de santé.
Voilà, prenons un exemple. Quelqu'un qui gagne 20 dollars. Voilà, vous faites la malaria, vous faites ceci, c'est pas moi. Vous allez à l'hôpital, déjà la prise de sang, consulter un médecin, c'est 30 dollars. Au final, vous arrivez à 100 dollars. Donc, cette personne va faire face.
Il y a les frais des labos, il faut aller acheter les médicaments.
Il faut acheter les médicaments, oui. Et donc on arrive à 100 dollars. Donc, vous arrivez pour juste de soins normaux, palliatifs, normaux, n'est-ce pas, d'une maladie qui n'est pas grave, vous arrivez déjà à 100 dollars, c'est-à-dire 3 fois plus le salaire mensuel. Comment pensez-vous que cette personne peut faire face à une telle dépense? C'est très compliqué. Bon, imaginez maintenant cette personne, s'il dépensait 1 dollar pour mettre dans une caisse, pour une mutuelle de santé, ça suppose quoi? Ça suppose que le jour où il est malade, il ne va pas faire face à cette dépense. Donc c'est extrêmement important.
Il semble d'ailleurs que les dépenses de santé les appauvrissent.
Mais
de
bien
plus
sûr,
en plus les ménages à faible revenu.
C'est ça le drame. C'est ça le drame. Et ça, il faut que les gens les notent assez très clairement. Mmh. Aujourd'hui, on fait énormément d'efforts pour pouvoir sortir les gens de la pauvreté. Par plusieurs mécanismes qu'on connaît, n'est-ce pas? Au travers de la finance, nous on fait de la microfinance, on donne du crédit, on donne de l'épargne, on fait des choses comme ça. Le gouvernement a d'autres armes, d'autres outils de réduction de la pauvreté. Mais le problème, c'est que le pauvre est fragile. C'est-à-dire que dès qu'il commence à sortir de la pauvreté, mais cela suppose qu'il est toujours à une situation où il peut retourner. Donc chaque fois qu'il y a catastrophe, cette catastrophe le retourne directement au niveau de la pauvreté. Donc, si on pouvait coupler au mécanisme de pauvreté, de réduction de pauvreté classique, un mécanisme de micro-assurance, on va s'assurer que même s'il y a catastrophe, cette personne qu'on parvient à peine à sortir de la pauvreté peut se maintenir.
Elle est couverte, il y a une certaine couverture.
Il y a une certaine couverture, donc d'accord. C'est extrêmement important.
Comment aider les ménages à faible revenu à bénéficier d'une micro-assurance? Nous avons en ligne Gaston de Kinshasa. Sadi nous appelle également de Kinshasa. Vous voulez également participer, composez 0-81-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour, et quelle est votre question?
J'ai dit Daniel, et puis je pense, c'est, l'invité ne pense pas comme moi que les problèmes vraiment résident au niveau de, disons, au stade de niveau de vie. Du niveau de vie que mène cette population, mais aussi de la mentalité de cette population, parce que le vrai problème aussi, ce secteur n'est pas encore libéralisé. Et donc, je pense que l'assonance est implantée sur toute l'étendue de la RDC, et tous les produits que le monsieur venait de faire allusion, on peut assurer, soit on peut obtenir l'assurance auprès de l'assonance. Et puis, lorsque ça sera libéralisé, à mon avis, il faut procéder d'abord à la privatisation de cette société, parce que si les gens entrent dedans, les privés, et que les choses peuvent marcher, parce qu'actuellement, la société est presque en faillite. Et puis, les mutuelles de santé, moi, je pense que c'est aussi une bonne idée, les mutuelles de santé. Est-ce que l'invité ne pouvait pas accepter que qui est le système, au lieu de parler d'assurance, parce que l'assurance suppose donner, et lorsqu'on n'a pas connu un accident, on peut donner ce que tu as donné pour le compte des autres. Mais la mutualité, on suppose que l'argent vous donnez quelque part, c'est quelque part, lorsqu'il y a un problème qui arrive, vous le dépensez, mais vous ne le perdez pas comme c'est dans les systèmes d'assurance, vous perdez lorsque vous n'avez pas commis les risques, et ceux qui ont commis profitent de votre argent, bien que la prime est minime, hein.
Bien, merci Gaston de Kinshasa. Sadi, vous êtes également à Kine. Quelle est votre question? Bonjour.
Bon, bonjour, je salue aussi l'invité. Ma préoccupation est celle-ci. Je voulais demander à l'invité, est-ce que il n'est pas bon d'agir, de commencer à agir d'abord à l'amont? Quand je dis en amont, ça signifie quoi? Dire à un citoyen, parce que comme il dit là que leur champ d'action est le petit peuple, dire à un citoyen analphabète, nous savons bien que notre pays est plein d'analphabètes, peut-être plus de 60%. Dire à un citoyen analphabète qui ne comprend rien sur cette assurance-là et d'aller se faire assurer, vous pensez que c'est facile? Donc peut-être quand on agit en amont, c'est chercher d'abord à élever le niveau de raisonnement de ces citoyens-là et peut-être aussi chercher à élever aussi leurs moyens. À ce moment-là, ils peuvent penser peut-être à s'assurer. Vous ne pensez pas que l'homme blanc a commencé à penser à l'assurance vie juste à partir du 14e ou 10e siècle? Ça a pris du temps et puis ils ont étudié à un certain moment, le niveau de raisonnement est élevé. À ce moment-là, ils ont commencé à penser que non, on peut assurer la vie, on peut faire ceci. Mais quand vous pensez directement, votre cible est le petit peuple. Ce petit peuple, malheureusement, il est pauvre, il est analphabète, il ne va pas vous comprendre.
Bien, merci Sadi. Joseph, vous êtes à Kananga, dans la province du Kassai occidental. Bonjour, quelle est votre question?
Oui, bonjour, merci Jody. C'est une bonne question et donc c'est un meilleur thème qui m'intéresse. Je voudrais demander à l'invité, qu'à l'invité nous précise ou qu'il nous dise quelles sont les bonnes méthodes d'emploi, plutôt les techniques d'emploi qu'on peut obtenir une bonne micro-assurance. Et la deuxième question est de savoir qu'est-ce qu'il peut nous conseiller, et nous qui voulons en fait nous marier pendant que nous sommes encore célibataires, est-ce qu'on peut se présenter auprès des institutions, soit privées ou publiques, pour obtenir une microfinance? C'est ça mes deux petites questions.
Non, aujourd'hui on parle de la micro-assurance, on ne parle pas du financement du mariage, comment est-ce que vous pouvez... Ouais, c'est pas ça le thème du jour, c'est plutôt...
C'est-à-dire, je vais parler par là que... Comment on peut obtenir la micro-assurance lorsqu'on est encore dans un jeune couple?
D'accord, merci. Jean-Claude Tética.
Oui, alors, merci. On peut avoir des questions, hein, vous avez vu là. Alors, D'abord une précision, on est plutôt à une phase de sensibilisation. Il est tout à fait clair que je pense qu'il faut un peu répondre à un peu rappeler ce que Gaston a dit. Effectivement, Gaston, nous n'avons pas encore une libéralisation effective au niveau du pays des assurances. Mmh. Aujourd'hui, le monopole des assurances est toujours détenu par la SONAS, qui est la société nationale. Nous, le FPM, nous avons anticipé un peu le débat parce que vous savez que ce n'est pas un secret, c'est qu'il y a une loi, un projet de loi qui a été déjà débattu au niveau du Parlement et qui a été aussi revu au niveau du Sénat et qui se trouverait aujourd'hui sur la table du président de la République, qui va être promulgué et qui va consacrer, n'est-ce pas, la libéralisation du secteur des assurances. Et donc nous avons pensé qu'il était important maintenant de commencer déjà à sensibiliser les gens, les institutions à ce qui va arriver très bientôt. Donc effectivement, si vous me posez la question de savoir où se trouvent des institutions, où il faut le prendre, effectivement, ce n'est pas encore tout à fait effectif. Mmh. Il faudra peut-être attendre une ou des années avant de voir ça devenir actif.
Mais dans d'autres pays, comment ça se passe? Les secteurs de l'assurance est libéralisé?
Oui. Je pense que nous sommes parmi les derniers pays au monde qui avons encore le monopole au niveau de l'assurance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République, le gouvernement a pris cette question tout à fait sérieusement et de décider carrément de pouvoir libéraliser et donc par la suite la SONAS va pouvoir jouer le rôle de la concurrence avec les autres.
Et quelles sont les institutions qui peuvent accorder la micro-assurance aux gains petits?
Alors, maintenant, vous savez, l'assurance, à la différence de la finance classique, où les canaux de distribution sont très très connus, vous avez plusieurs partenaires. Vous avez des sociétés d'assurance qui peuvent ne pas être des sociétés financières, n'est-ce pas? Et vous allez voir d'ailleurs le contrat, ou plutôt le draft de la loi, parle d'un montant de 10 millions pour pouvoir avoir l'agrément, des 3 millions quand vous êtes des mutuelles. Donc vous avez des assurances, les assureurs, qui peuvent être des grosses boîtes, des boîtes moyennes. Vous avez plusieurs des gens qui font la co-assurance. C'est-à-dire que moi j'assure, quand je me trouve devant, je sais qu'un jour je peux me faire face à la catastrophe, à quelque chose de plus important, il faut que je me réassure encore à un niveau plus grand. Mais vous pouvez avoir aussi des agents, des courtiers, des gens qui peuvent vendre l'assurance, qui peuvent
les distribuer. Les institutions de microfinance.
Voilà, les institutions de microfinance peuvent distribuer cette assurance. Ils peuvent en même temps être assureurs s'ils le veulent, mais ça veut dire qu'il faut aussi avoir un capital minimum pour pouvoir cela. Donc, les institutions de microfinance peuvent l'assurer. Là, c'est déjà assez important parce que ces gens ont déjà des dizaines et des milliers de clients au sein de leur institution. Et donc, facilement, ils peuvent déjà proposer à leurs clients qui sont des gens de la microfinance pour dire, écoutez, vous pouvez aussi obtenir l'assurance vie, vous pouvez aussi obtenir l'assurance maladie ou santé.
Gaston a parlé aussi des mutuelles de santé.
Voilà. Alors, il a parlé de la mutuelle de santé. En réalité, les concepts n'est pas tout à fait opposé, loin. C'est une forme. La mutuelle de santé est une forme d'assurance santé. Et la seule différence, effectivement, quand vous êtes dans une mutuelle de santé. En effet, il est rare et même impossible que vous terminiez votre vie sans que vous bénéficiez de ce que vous avez cotisé. Parce que, enfin, vous êtes d'accord avec moi, je dis que vous attraperez un peu la grippe quelque part.
Ou si vous ne tombez pas malade, l'enfant tombera.
D'une certaine manière, c'est pourquoi d'ailleurs, il est important de signaler que lorsque vous posez la question aux personnes, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus qui doit être assuré? C'est la santé en premier lieu. Voilà, parce que le problème des santé, ce sont des problèmes récurrents, et donc éventuellement les gens qui s'assurent qui sont au niveau des mutuelles de santé bénéficieront de toutes les façons de ce qu'ils sont en train de mettre, et donc c'est très 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 important de pouvoir, de pouvoir le dire. Alors, il a parlé de la mentalité, je pense que ça c'est même une question aussi que Sadi a aussi évoqué en disant les niveaux de vie, la mentalité,
les niveaux d'études, des citoyens analphabètes.
Crois pas à l'argument qui voudrait qu'on arrête de respirer, on arrête d'entreprendre parce que les gens sont pauvres et qu'il faut attendre qu'ils deviennent intellectuels, intelligents, je ne sais pas comment, pour pouvoir leur offrir ce qu'ils ont besoin. Mais attends, ça dit, vous pouvez juste jeter un regard autour de vous. Regardez toutes ces mamans qui sont tout autour du marché, qui sont en train de vendre, qui sont en train de nourrir des grandes familles. Mais vous savez que ces mamans, à une certaine époque, on disait qu'il était impossible de leur accorder même des crédits, parce qu'ils étaient analphabètes. Mais je vous apprends aujourd'hui que dans ce pays, les nombres de personnes qui ont accès au financement, ce sont plus le petit que le grand. Donc, la microfinance a démontré qu'il était important de pouvoir travailler avec le pauvre, même s'ils n'ont pas un niveau d'instruction élevé. Et donc, on ne peut pas priver. Et d'ailleurs, je veux même aller plus loin, c'est même beaucoup plus important de commencer à cet stade-ci pour pouvoir. Maintenant, la question, c'est serré, oui, mais comment ils peuvent comprendre un contrat d'assurance, comment ils peuvent comprendre...
Il part du niveau de raisonnement.
Voilà, et tout ça. Mais effectivement, la micro-assurance ou la microfinance a développé des outils, une approche qui permet effectivement de répondre à une question capitale. Comment pourrions-nous, n'est-ce pas, collaborer avec les pauvres qui ont un niveau d'éducation très bas sans qu'on les embrouille dans des contrats et dans des choses sophistiquées.
Oui.
Et donc, on a développé une approche qui permet, par exemple, je vous dis, vous allez trouver dans certains pays le contrat de l'assurance, c'est juste une page dans laquelle il y a des images.
Voilà, ça, les écrit, ça facilite écrit, la compréhension.
Écrit, et si c'est à Kinshasa, écrit en lingala.
Voilà, en langue locale.
Ça dit que quelqu'un en langue locale, en swahili, en chiluba, c'est très très adapté et ça aide énormément.
Voilà. Christian Mayemba nous appelle des Kalemi, dans la province du Katanga. Bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Bonjour, je dis, c'est Chris Mayemba, s'il vous plaît.
Oui.
Oui, moi j'ai des préoccupations à poser à l'invité. Je voulais juste lui demander, souscrire d'abord à ce système, c'est un très bon système, mais je voulais lui demander, parce qu'au Congo ici, nous avons moins d'un dollar par jour, comment nous pouvons commencer à mettre ça, à souscrire à ce système? Deux, si, comme il a dit, leur champ d'action, c'est le bas peuple là, moi je suis en train de faire ça pour survenir à mes besoins ou aux catastrophes qui vont venir, mais subitement je trouve la mort après avoir effectué sur ces 5 ans, 3 ans d'activité en donnant quelque chose là-bas. Est-ce que ma famille bénéficiera, qui reste très pauvre encore, bénéficiera de ce système-là après ma mort? Voilà les deux questions que je voulais demander à l'invité.
D'accord, Jean-Claude Tétika.
Oui, alors Christian, vous posez là une question qui est vraiment assez importante. Effectivement, l'assurance a prévu tout ça. Il y a un produit qu'on appelle l'assurance vie. C'est la réflexion même autour de l'assurance vie, c'est celle-là. Mais qu'est-ce qui arriverait à mes enfants si en sortant de la route, je suis cogné par une voiture? Ça, c'est la question que tout papa, n'importe qui se pose la question. Comment ils vont se prendre en charge? Étant moi-même déjà assez pauvre, je n'ai pas assez de moyens. Alors, souscrire à une assurance vie, effectivement, répond à cette question. C'est que le jour où quelqu'un connaît un accident et qu'il a un accident mortel et qu'il laisse des enfants, effectivement, l'assureur va pouvoir rembourser de l'argent. Quand je dis rembourser, c'est pas il va pas rembourser le montant que vous avez contribué, il va rembourser une enveloppe beaucoup plus grande que ce que vous avez remboursé pour permettre effectivement à votre famille, parce que la personne qui assure le revenu au niveau de la maison n'est plus là. Et donc c'est ça. Et on a vu partout ailleurs des gens qui ont souscrit à l'assurance vie et subitement il y a une mort, les enfants qui sont restés reçoivent 100 000 $ et qui leur permet effectivement de continuer la scolarisation des enfants et tout ça. Donc tout cela est assuré. Mais la question de 1 dollar par jour de la pauvreté, mais effectivement, Christian, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le fait même qu'on soit pauvre suppose même qu'on est buté à beaucoup, beaucoup de risques. Donc, on a adapté les méthodes, la micro-assurance adapte les méthodes pour pouvoir vous permettre, même avec 1 dollar, de pouvoir assurer. Tu vois, et de pouvoir contribuer 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars. Donc, la prime d'assurance peut varier suivant les capacités des gens et tout. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement important de pouvoir y réfléchir pour permettre de se parer des dangers.
Alors Jean-Claude Tétika, la micro-assurance n'existe pas encore à RDC. Vous avez dit que la loi est sur la table du chef de l'État sur l'assurance. Aujourd'hui, quels sont les éléments nécessaires qu'il faut considérer pour mettre en place la micro-assurance?
Alors quand j'ai dit que la micro-assurance n'existait pas dans sa forme connue dans les autres pays du monde, assez formalisée, assez... il y a une forme, vous savez, on a parlé quand même de mutuelle de santé et qui ne sont pas forcément du domaine de l'assurance classique, mais qui répond déjà aux besoins. Aujourd'hui, avec la loi, avec le ministère des Santé, vous savez qu'il y a une instruction qui a été sortie et qui permet de pouvoir organiser les mutuelles de santé. Et on le voit maintenant en train de pulluler un peu dans la ville. Donc, il y a déjà des pratiques qui existent. Il y a certaines pratiques informelles qui ont toujours existé. Mmh. L'assonance a aussi existé. Bon, effectivement, l'assonance assurée de personnes plutôt à revenu moyen un peu plus haut. Alors, les conditions. Alors, il faut les conditions, effectivement, il faut commencer d'abord par avoir cette loi promulguée.
Oui.
Et je pense que ce que nous voulons, et nous encourageons d'ailleurs le gouvernement à dire que c'est extrêmement important, et le président de la République...
Mais la loi qui est sur la table du président de la République n'a pas tenu compte de la micro-assurance.
Non, alors, écoutez, on ne peut pas tout demander aux législateurs hein, de le départ. Mmh. Déjà, le fait qu'il y ait une loi de l'assurance, c'est déjà assez important, parce que c'est déjà un progrès. Hein. On parle bien des 50 ans avant qu'on ait eu cette loi. Mais cette loi... il y a certaines dispositions qui permettent effectivement, même sans qu'on soit un assureur direct, vous pouvez être distributeur en vous associant avec un gros assureur et tout, même une institution de microfinance peut le faire. Donc, même à l'état actuel de la loi, il est possible effectivement de pouvoir greffer déjà, commencer à fournir certains produits de la microassurance. Ceci étant, notre appel et le suivant, c'est que qu'on ne tarde pas qu'il y ait à la suite de la promulgation de cette loi des dispositions particulières spécifiques pour la micro-assurance. Vous savez, il y a des pays de la CIMA de l'Afrique francophone sont déjà très très avancés par rapport à cela. Donc il est important qu'on ne tarde pas dès que cette loi est promulguée, qu'on puisse passer directement à des dispositions pour la micro-assurance.
Maurice, vous êtes à Dungu, en province orientale. Bonjour, quelle est votre préoccupation?
Merci, je dis Daniel Kachama. Ma préoccupation est la suivante, ok?
Allez-y.
Oui, j'aimerais poser la question à l'invité si ce service de microfinance, c'est parce que la cible.
Micro-assurance.
Micro-assurance.
Le moyen, donc le bas faible. J'aimerais savoir si ce service se focalise seulement à Kinshasa ou bien si le bureau s'est parti aussi à travers toute la RDC.
Oui. Alors Maurice, en fait, on est dans un processus plutôt de sensibilisation. Donc, je répète encore ce que j'ai dit. Vous savez, l'assurance a toujours été sous le monopole depuis plusieurs années. Et donc là, le pays s'est engagé dans un processus de libéralisation qui n'a pas encore vraiment commencé, mais qui est très avancé parce qu'aujourd'hui, on parle d'un draft de loi qui est sur la table du président qui va être promulgué. Et donc, nous avons pensé qu'il était important déjà de pouvoir sensibiliser la population, et mais aussi les institutions qui peuvent dire, voilà, il y a quelque chose de très important qui arrive et qui va résoudre un problème qu'on a eu des difficultés de pouvoir résoudre. Donc aujourd'hui c'est très compliqué, je ne peux pas vous dire, voilà, dans votre province il y a tel endroit où vous pouvez avoir de la micro-assurance, mais ceci étant, comme on était en train de parler des mutuelles de santé, les mutuelles de santé sont déjà une forme de l'assurance qui permet de pouvoir répondre déjà aux besoins. Et je peux imaginer qu'à la province orientale on peut le trouver.
Voilà. Il y a aussi des mutuelles de santé.
Il y a des mutuelles de santé.
Oui. Bien, merci Jean-Claude Tétigard, en rappelant que vous êtes le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Bonne journée et à la prochaine.
Je vous remercie. Merci.